Alors, après, je vais vous parler des tuyaux. Et le mieux, c'est que je vous présente, vous voyez, ce qu'on appelle les tuyaux à bouche. Donc, ce qu'on appelle, en fonction de la taille du tuyau, vous aurez des sons différents. Et donc, vous aurez, donc ça, c'est d'après l'orgue de Saint-Cernin, la voix céleste, la voix de gambe, la gamble, le sensitional, le bourdon, la montre et la flûte harmonique. Alors, vous avez bien sûr... C'est comme un peu les tuyaux, donc c'est des tuyaux à bouche, hein, donc avec le postage, c'est donc l'arrivée de l'air qui se fait ici par le postage, un support en bois bien sûr, et vous avez comme une flûte, hein, vous avez un élément biseauté, ces tuyaux qui remontent, alors plus ou moins, donc avec un corps de tuyaux, et puis ici, quand c'est ouvert, avec ce biseau et une lèvre supérieure, une lèvre inférieure au niveau de la bouche. Hein, voilà. Donc ça permet d'avoir ces différents sons. Vous avez, bien sûr, en ce qui concerne les flûtes, différents types de flûtes. Hein, la flûte conique, hein, vous voyez, la flûte à biberon, en fonction de et donc la flûte à cheminée, la flûte harmonique, donc en fonction de ça, vous avez des sons différents. La flûte à fuseau, donc, et la flûte cylindrique. Je vais vite parce que vous avez compris. Donc voilà, encore. Alors, pareil pour les bourdons. Hein, donc vous avez différents types de bourdons. Bourdon à calotte soudé, hein, bourdon à calotte mobile, bourdon à cheminée, hein, ou à calotte soudée. Donc, vous voyez, vous avez différents types de... Alors, également, voici une coupe sur un tuyau en bois, parce qu'effectivement, quand on parle de tuyaux, vous avez différents tuyaux. Vous avez des tuyaux en bois, vous avez des tuyaux en alliage. Très souvent, ce qu'on appelle spotted, c'est en fait un mélange d'étain et de plomb. Alors, voilà aussi... d'autres formes d'accords de tuyaux, hein, donc je passe très vite parce que... Et puis je vais vous montrer également un peu ce qu'on trouve, bien sûr dans les archives, entre autres aux archives départementales, comment donc le facteur d'orgue, quand il va faire son projet de construction d'un orgue, établit, donc ici avec la console, donc le grand orgue, le positif récif, établit son instrument avec les différents jeux qu'il va mettre en place en fonction aussi du récit, du grand orgue, du positif évidemment. Voici également une détail d'une hanche, hein, donc comme pour un instrument avant, hein, évidemment. Voilà, je vous montre différents types de hanches. Toujours détail d'une hanche, vous voyez comment la hanche a bien sûr, vous voyez la languette, hein, rigole, la rasette, vous voyez, donc tout ça c'est des termes que connaissent les musiciens et les organistes en particulier. Voici également les formes de hanches qui correspondent aussi à différentes tonalités, hein, au bois, basson, trompette, musette, cromorne, régal, hein, donc... Voici également, je vais vous montrer une coupe sur un instrument où vous voyez, donc là, l'organiste ici, hein, donc vous avez les différents claviers, hein, là ici, vous avez quatre claviers, hein, donc vous avez le système de transmission, l'arrivée d'air et avec la positionnement des tuyaux et des éléments, donc les sons qui vont sortir à la pédale, les sons qui vont sortir aussi et les sons qui vont sortir au grand orgue. Voilà, bon, par exemple, un buffet Renaissance, vous voyez, de l'orgue de cadrale de Toulouse, c'est un orgue 17e, et là, vous avez, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tous les éléments qui composent un orgue. Je vous montre, voilà, également un autre, donc, un orgue 19e siècle, hein, et puis, je vais vous montrer... un orgue plus moderne, donc 1973, voilà. Alors, je vais vous parler plus particulièrement des orgues à Nantes maintenant. En fait, la ville de Nantes possède en fait un parc d'orgues à tuyaux, pour la plupart construit au XIXe siècle par Louis de Bière. Louis de Bière est né en 1842, il est décédé en 1920. Et c'est un facteur d'orgue qui s'est installé à Nantes en 1862. Son père d'ailleurs était menuisier. Et il va construire le premier orgue en 1863, qui sera l'orgue de Reine de toute joie, qui est un très bel orgue, très bel instrument, qui est d'ailleurs classé au titre des monuments historiques. Et puis également, il va installer sa manufacture des tabacs, il va se développer, et il va installer sa manufacture des tabacs en 1875, rue Geoffroy Drouet, tout près de l'église Saint-Clément. C'est pour ça qu'il avait un attachement particulier à cette église. On peut dire qu'au XIXe siècle, il y avait deux grands facteurs d'orgue, Aristide Cavaillé-Cole, vous avez entendu parler, et Louis de Bière. Alors Louis de Bière, bien sûr, pour moi, c'est un personnage. Alors donc Pierre Le Gall, qui a fait un ouvrage, je vous le conseille, hein, dans la collection chez Mémo, un carnet d'usine, a fait un petit ouvrage qui raconte un peu la vie de Louis de Bière. Qui va faire à peu près, je crois que c'est à peu près, je ne dis pas de bêtises, mais 600 instruments en un demi-siècle, hein, durant toute sa carrière. Malheureusement pour lui, je ne vais pas rentrer dans les détails, Pierre Le Gall, mais il n'aura pas d'héritier direct, il aura en fait, c'est Georges Loton qui reprendra à partir de 1120 sa facture, heureusement. Donc à Nantes, la ville de Nantes elle-même, vous savez, avec la séparation de l'Église de l'État, est propriétaire de 16 édifices cultuels. Alors, je parle de basiliques, des églises et des chapelles. Et puis, bon, effectivement, dans ces établissements, il y a certaines églises, je dirais, modernes, qui ont des instruments dont je ne parlerai pas ce soir, qui sont plus des harmoniums ou plutôt des harmoniums pour moi. Il y a bien sûr le grand orgue de Notre-Dame de Bonport qui est classé depuis le 11 décembre 1975 au titre des monuments historiques. Il y a l'orgue de l'église Notre-Dame de Touzette qui est un petit orgue à deux claviers. Il y a l'orgue de chœur de Sainte-Anne qu'on vient de restaurer, je reviens dessus. Il y a l'orgue de chœur de Saint-Clair. Il y a l'orgue de chœur de l'église Sainte-Croix. Celui de Saint-Clément donc, qui va être restauré et dont l'inauguration va avoir lieu vers le 13-14 avril. Il y a le grand orgue de chœur de l'abbaye Saint-Dizocien qui est un orgue plus récent de Beuchet. Il y a le grand orgue de l'église Saint-Jacques. Il y a celui de la Madeleine qui est malheureusement en panne. Il y a le petit orgue de chœur de Saint-Martin de Chantenay sur lequel j'ai des projets bien sûr pour le restaurer. Et puis il y a le grand orgue de tribune et l'orgue de chœur de Saint-Nicolas. Et il y a également un grand orgue à Saint-Similien. Alors, tous les orgues, bien sûr, de la commune de Nantes n'appartiennent pas à la ville. Hein, il y a évidemment, en premier lieu, et là je parle sous le couvert de Gabiniel, c'est le grand orgue de tribune de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul, qui est un orgue, bien sûr, qui a été construit en 1619, vous voyez, donc par Girardet, restauré, reconstruit plusieurs fois, en particulier par François-Henri Clicquot en 1784, qui lui livra un instrument modifié avec 52 jeux, répartis sur 5 claviers manuels et un pédalier. Merclin fera une intervention aussi en 1868. Georges Gloton, le successeur de Louis de Bière en 1924. Et Joseph Beuchet, qui est le successeur de Georges Gloton, qui disait Beuchet de Bière, est intervenu en 71. Et aujourd'hui, je crois que c'est Nicolas Toussaint qui s'en occupe, donc qui est un des héritiers, mais en fait, ils sont tous des héritiers de Debière. Il y a bien sûr un orgue de chœur qui est de Louis Debière, qui est lui-même classé au titre des monuments historiques depuis 1987. C'est ce qu'on appelle l'opus 129. Il a été relevé d'ailleurs par Joseph Beuchet en 1952 et par Jean Renaud en 1993. On a aussi un orgue dans l'église Notre-Dame de Lourdes, hein, qui a été construit par Georges Loton en 1946. On a aussi un orgue dans Notre-Dame des Lumières, qui a été construit par Ferchurin en 1960. Il y a également un orgue dans le temple protestant construit par Joseph Beuchet en 1954. Il y a un polyphone, alors je vais dire, Debierre a toujours voulu, son rêve, c'est de faire l'orgue portatif, l'idéal. C'est-à-dire que, donc, il a fait des petits orgues aussi dans ce qu'on appelle des polyphones, qui est le numéro 77, qui est aussi à l'église Saint-Étienne de Bellevue, hein, donc, qui a été construit en 1899 pour l'église de Pouliguen. Alors, vous voyez qu'aussi, il y a des orgues qui ont été construits, qui ont été déplacés d'un établissement à un autre. Il y a un orgue construit par Pierre Chiron, que je ne connais pas, qui est à l'église Saint-Paquier. Il y a également un orgue de Jacques Olavergne, plus récent, qui a été construit dans l'église Sainte-Élisabeth. Un orgue de Jean-Renaud Raymond de Bouvet, dans l'église Sainte-Thérèse, qui a fait l'objet de travaux. L'orgue de la chapelle du Grand Séminaire et de Georges Gloton. Il y a un polyphone aussi, que j'ai vu, qui se trouve dans la chapelle de l'Hôtel Dieu, à Saint-Jacques, et le polyphone numéro 269 qui a été construit en 1917, donc à la fin de la carrière de Louis de Bierre, qui malheureusement, je voudrais m'en occuper parce que je pense qu'avec l'association des amis des hôpitaux, il y a quelque chose à faire pour cet orgue. Bon. Il y a aussi l'Opus 2 qui est dans la chapelle de l'Immaculée Conception, qui a été démonté, vous avez bien compris, puisque la chapelle de l'Immaculée Conception, rue Malherbe, a fait l'objet de restauration et qui a été stocké pour l'instant chez Denis Lacor. Il y a également un orgue de Joseph Beuchet de 46 qui est dans la chapelle du lycée Clémenceau. Il y a un orgue Cavaillé-Cole Mutin, début 20e, qui est dans la chapelle militaire Saint-Marc. Il y a un autre orgue Cavaillé-Cole qui est lui classé monument historique, qui est dans la chapelle du collège Saint-Stanislas. Il y a un orgue construit en 78 par Joseph Beuchet pour conservatoire, évidemment. Hein, donc, il y a un orgue dans le conservatoire, même si notre ami Michel Boursier, qui est professeur à conservatoire, dirait que ce n'est pas le plus bel instrument. On préfère aller jouer sur l'orgue de la cathédrale ou sur celui de Notre-Dame-au-Port, voire celui de Saint-Nicolas. Il y a aussi également Beuchet qui a construit un orgue dans la chapelle des Pères Jésuites. J'ai retrouvé aussi un orgue construit par Auguste Tolbecq dans l'Institut de la Persergotière. Il y a un polyphone dans la chapelle de l'Union de Notre-Dame de Charité. Donc c'est polyphone 204 de Louis de Bierre. Un autre polyphone qui se trouve dans la chapelle de Communauté des Sœurs Visitantines. Donc c'est le numéro 75. Et enfin, il y a aussi Louis de Bierre avait construit un orgue pour un particulier qui est l'opus 245 par un monsieur Coyot, mais je n'ai pas une nouvelle. Revenons à ce qui me concerne plus particulièrement, c'est les orgues communaux. Donc, en premier lieu, l'orgue de Notre-Dame de Montport. Alors, moi, ce que j'ai fait, bien sûr, quand j'ai travaillé sur ces orgues, outre que j'ai lu ces ouvrages, je vous ai expliqué, mais j'ai rencontré aussi, on a la chance d'avoir à Nantes, dans les années 80, je crois, il y a eu, juste avant les années 80, il y a eu un travail d'inventaire qui a été lancé sur les orgues par région. Et donc, c'est Myriam Turpin, c'est ça, hein, Myriam Turpin qui a participé à cet inventaire. Donc, on retrouve un descriptif, hein, c'est parfois un peu court, mais un descriptif précis dans les années 80 de tous les orgues de Nantes. C'est pour ça que j'en ai tiré l'essentiel. Effectivement, alors moi ensuite, mon travail, ça va être de rechercher ces instruments, donc leur caractère originel, et puis les transformations qui ont été apportées par ces instruments. Alors donc, évidemment, quand on vient sur l'orgue de Notre-Dame de Montport, qui est un orgue symphonique de 34 jeux au départ, hein, qui a été construit entre 1879 et 1891 par Louis de Bierre, c'est le chef-d'œuvre de Louis de Bierre, il faut le dire, et puis c'est lui-même, je crois, a participé à la construction de ces orgues de ses deniers. Hein. Je crois qu'il a même donné de l'argent pour réaliser. Donc, il a fait une première restauration en 1909, vous voyez déjà sur un instrument construit, pour l'améliorer. Et puis Georges Coton, son successeur, l'a relevé. Alors, le relevage, ça veut dire qu'on va reprendre l'orgue pour le remettre en état en 1929. Bien sûr, en ajoutant des jeux de pédales qui ont été posés en bas de flanc. Joseph Beuchet, qui est un peu le successeur de Georges Gloton et de Louis de Bierre, va réaliser un second relevage en 1951. Et donc, il va ajouter aussi un jeu. Et Jean Renaud, qui un peu a supporté Joseph Beuchet dans les années 70, va faire un troisième relevage. Vous voyez, à chaque fois, il y a eu... Et donc, bien sûr, il sera assisté par Norbert Dufourcq, dont je vous ai parlé, qui a fait le Que sais-je, et Georges Robert, qui était présent, et Jean Cau, qui avait un expert de la Commission nationale des orgues historiques, qui était là. Aujourd'hui, cet orgue est asthmatique, on va dire, il souffre énormément. La ville de Nantes a décidé de lancer une étude préalable. Donc, comment on fait dans ces cas-là, sur un orgue historique? On a en France 5 conseillers techniques pour les orgues historiques. Donc, on fait un appel d'offres. Et à la suite de cet appel d'offres qui a eu lieu en avril 2012, nous avons choisi celui qu'il connaît mieux, donc Roland Galthier, avec qui je travaille, qui fait une étude préalable, comme pour un bâtiment, une étude préalable et un diagnostic de l'orgue. Nous travaillons ensemble. Effectivement, nous avons mon souci dans cette affaire, c'est d'associer au mieux, alors bien sûr la commission diocésaine des orgues, hein, puisque c'est quand même eux les premiers utilisateurs, l'association des amis de l'orgue de Notre-Dame-de-Montport, l'association des amis des orgues de Nantes et de l'Atlantique également. J'ai associé Père Félix Moreau, qui est, je dirais, aujourd'hui, avec son âge de sage, je vais dire, a une connaissance des instruments sur plus de 50 ans. Hein, c'est une mémoire vivante, donc nous avons des échanges de correspondance ensemble, et donc je l'invite également, il vient aux réunions. J'invite également aussi Michel Boursier, qui est en fait qui est le professeur du Conservatoire national et qui est aussi titulaire à la cathédrale de Nantes, hein, de l'ordre du Grand Ordre de Tribune de la cathédrale de Nantes, comme j'invite aussi Marie-Thèse Géant, qui est aussi titulaire. Donc, vous voyez, j'ai tous les titulaires de la cathédrale pratiquement aujourd'hui autour de la table. Et puis, bien sûr, les deux organismes titulaires qui sont Florence Lamiro et Damien Raillé, qui sont invités à ces réunions. Donc, on fait des réunions avec le curé et on présente l'avancement des travaux. Donc là, en janvier 2013, on va présenter l'étude préalable terminée, hein, et ça fait l'objet de discussion. Il y a un rapporteur qui est aussi lui-même organiste, vous savez, je suis dans un monde que d'organistes, Christophe Mantoux, qui va rapporter ce dossier à la Commission nationale des monuments historiques, normalement en mars. Et on a prévu d'engager des travaux sur un budget entre 100 et 150 000 euros de travaux sur cet instrument. Cependant, on ne va pas faire un relevage, on va faire des interventions qui toucheront en premier lieu à la soufflerie, parce que c'est celle qui est plus atteinte, et à tout ce qui est le système de transmission qui pose problème. En même temps, comme je suis architecte, je me soucie effectivement de l'église elle-même, Notre-Dame de Montport, hein, qui a été construite par Suette et Chenantais, et surtout Chenantais, qui est l'église néoclassique de Nantes, et qui mérite des travaux très importants. Alors pour l'instant, moi je me bats auprès des services des bâtiments communaux et de la ville pour qu'on puisse envisager une étude préalable sur l'église pour envisager les travaux, parce que quand je monte sur cette église, on a beau être intervenu sur la partie sommitale de l'église, malheureusement toutes les ingris sont arrivés en fin de vie. Donc, si l'orgue n'est pas protégé, si les peintures murales de cette église ne sont pas protégées, il y a une urgence à assurer le clou et le couvert de cette église. Donc, on va voir. Donc, effectivement, dans les discussions sur la restauration de l'orgue, nous sommes amenés à faire des allers-retours entre l'instrument et puis le bâtiment qui l'accueille. Donc, voilà pour ce que je peux vous dire sur l'orgue de... Je ne vais pas parler de l'orgue de chœur parce que il appartient à la paroisse. Et puis, par contre, à cette occasion, à chaque fois, comme c'est la paroisse qui est l'utilisatrice, la paroisse est chargée maintenant, aujourd'hui, de l'entretien de l'instrument. Hein. Donc, il y a un contrat d'entretien pour que cet instrument soit restauré. Donc, c'est les frères Robert, en la mesure, Stéphane et Olivier Robert, qui s'occupent de l'entretien des deux instruments pour la paroisse. Un orgue que j'ai été voir il n'y a pas très longtemps, c'est l'ordre Notre-Dame de Toutes Aides, qui est l'opus 66, qui est de Louis de Bière, construit en 1885, relevé par lui-même en 1915. Il a malheureusement, comme certaines églises, beaucoup d'églises de Nantes, subi les dommages des bombardements. Donc il a fait l'objet d'un second relevage par Georges Loton, puisque c'était le successeur de Louis de Bière, qu'il a restauré et enrichi de nouveaux jeux en 1945. Jean Renaud, qui a succédé un peu à la facture d'ordre de Joseph Beuchet, ou qui a supporté la facture d'ordre de Joseph Beuchet, a refait un accord général en 73. Et aujourd'hui, c'est Nicolas Toussaint qui entretient l'ordre. J'ai été le voir également encore avec Roland Galthié récemment. Il y a quelques petits travaux, mais il n'y a pas une grande urgence, mais néanmoins, il y a quelques travaux. Toussaint a remplacé les boursettes et remis en pot des gosiers en 2003. Un orgue important, c'est l'orgue Notre-Dame de toute joie, qui est un orgue, c'est l'opus 1 de Louis de Bière, qu'il a construit en 1863 et qui est classé au titre des monuments historiques depuis 1987. Georges Loton a réalisé une première restauration en 1936-1937 et Nicolas Toussaint a réalisé de gros travaux d'entretien en 2007-2008 et continue à l'entretenir. Ce que je peux dire sur cet instrument, j'ai un souci, c'est sur le buffet. C'est un buffet en tilleul, c'est un très bel, si vous allez à l'église Notre-Dame de toute joie, c'est un très bel instrument. Malheureusement, il y a de la vrillette. Donc il y a une urgence, moi j'essaie de convaincre aussi la ville qu'on intervienne pour traiter, parce que aussi on trouve très, très souvent de la vrillette dans les buffets des orgues. L'orgue de cœur de Sainte-Anne, je le connais bien aussi parce que c'est un orgue de Louis de Bière. C'est plutôt un instrument d'accompagnement à vocation liturgique, donc avec un buffet en style néo-gothique. Premier relevage par Georges Dotto en 1937. Raymond Bouvet a réalisé des grosses réparations en 1952, qui sont discutables, mais bon, après les bombardements, il fallait intervenir puisque cette église a souffert des bombardements. J'ai eu la chance de confier à Roland Galthié une étude préalable en 2011. Qui a débouché sur un appel d'offres qui nous a permis de choisir entre trois facteurs d'orgue. Donc c'est Nicolas Toussaint, c'est la manufacture bretonne d'orgue, parce qu'il y a quatre manufactures sur l'agglomération d'orgue, qui a fait la restauration et qui l'a livré en septembre 2012. Donc voilà un orgue, une église restaurée, un orgue restauré. Bah, Louis de Bière avait, donc, vu ses relations avec le clergé et tout ça, les relations qu'il avait, il avait pratiquement le marché sur toute la région. Certains curés, je ne vais pas mettre sur le banc des accusés, mais comme la basilique Saint-Nicolas, qui souhaitent que leur église soit ouverte. Donc il y a des différences hydriques importantes qui font que les instruments souffrent. Et puis il y a d'autres ennemis aussi, c'est très souvent quand on fait des travaux, je prends l'exil de Saint-Nicolas, jamais on protège les instruments. Très souvent, on laisse les instruments, donc ils s'en poussièrent. Et puis, il y a un autre ennemi à l'orgue, aux églises, ce sont les volatiles, que sont les pigeons, qui rentrent dans les églises impunément. Et ça aussi, c'est effectivement, la fiente est très, très, très... Alors, je continue. Je vais aller assez vite. Je ne sais pas, je suis très bavard. Non, ça va, je suis dans le timing. Un autre orgue qui est important à Nantes, c'est l'orgue de l'église Saint-Clair. Alors, le problème, moi je l'ai encore vu, c'est un petit orgue qui a été construit initialement pour une église à Saint-Sevrin de Paris et qui a été ramené par Louis de Bière en 1902 dans cette église.